les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Ah, chez Stoff et les questions qu'il sait poser, la mauvaise volonté qu'il sait montrer, l'impuissance à penser qu'il met dans la pensée. C'était Gilles Deleuze qui écrivait ces mots dans « Différence et répétition ». S'il n'est pas aujourd'hui le plus célèbre des philosophes du XXe siècle, Léon Chestov n'en a pas moins marqué bon nombre de ses intellectuels importants, inspirait même certains d'entre eux, philosophes, romanciers ou dramaturges. En 1992, Les Chemins de la connaissance rappelait, en 20 petites minutes, qui fut Léon Chestov, né à Kiev en 1866, mort à Paris en 1938, qui, évoquant Hamlet, présentait Shakespeare comme son premier professeur de philosophie. C'est lui qui m'a appris cette chose si énigmatique et inconcevable, et en même temps si dangereuse et inquiétante, le temps est sorti de ses gonds. Léon Chestov ou L'épreuve de l'enfer, avec Olivier Clément, quatrième volet d'une série de cinq, intitulée 1870-1950, le renouveau de la pensée orthodoxe pour les chemins de la connaissance.
En parlant de la philosophie religieuse russe et des philosophes religieux dont nous avons parlé, que ce soit Solovyov ou Bulgakov et ensuite Berdiaev, Olivier Clément, nous disions que l'arrivée de ce courant, si l'on peut dire, avait été rendue possible par le contact avec la modernité d'une certaine façon et finalement avec l'Occident. Et lorsqu'on aborde quelqu'un comme Chestov, on a l'impression que là c'est particulièrement clair, dans la mesure où on peut se demander si Chestov ce n'est pas d'abord et avant tout, tout au moins dans le déclenchement d'une partie de sa pensée, d'abord et avant tout la rencontre avec le philosophe emblématique de la fin du XIXe siècle en Europe, c'est-à-dire Nietzsche.
Probablement, mais je pense que si on dit ça de Chestov, c'est qu'il a un avantage, il a été admirablement traduit. Il écrivait une langue russe très belle au point de vue littéraire et il a été très très bien traduit et il a été donc connu très tôt en France, où il a été un des inspirateurs de la pensée existentielle. Un homme comme Camus, par exemple, a beaucoup lu Chestov. Chestov, d'autre part, est juif. Il faut tenir compte de cela. Il s'appelait Schwarzman, c'était son vrai nom. C'est un juif de Kiev, donc en Ukraine. Et il a fait des études, il a fait des études philosophiques. Et certainement a-t-il été marqué par Nietzsche, c'est-à-dire par la fin de la philosophie, au sens nietzschéen. Et on retrouve la même démarche chez Chestov. Chez Chestov, il y a un refus de cette idée qui est tellement répandue dans la philosophie religieuse russe, qui est l'idée d'une connaissance intégrale. Une connaissance intégrale où l'intelligence et le cœur s'uniraient, comme dans la grande tradition de la prière du cœur. Chestov refuse l'idée même de connaissance en disant que la connaissance est la perte du paradis. Et le paradis, c'est la spontanéité même de la vie. Voilà ce qui, pour Chestov, est tout à fait essentiel. Et alors, toute son œuvre est une critique des soi-disant évidences de la rationalité. Il dit « Nous vivons dans un monde d'évidences dont la rationalité veut rendre compte, dont la science, dont la morale veulent rendre compte. C'est un monde de servitude parce que les lois de la science, les lois de la morale nous asservissent continuellement, mais nous découvrons par la foi, une toute autre dimension de l'existence. Et la foi survient dans des moments cataclysmiques de notre destin. Et alors il a beaucoup mis l'accent justement sur ces moments de rupture, ces moments de brisure, où véritablement l'homme échappe aux évidences de la raison et où il peut être saisi par la transcendance. Le dieu de Chestov, c'est vraiment le dieu vivant. Nous sommes très loin, là, des philosophies de l'unitotalité, de la sophiologie. C'est vraiment le dieu biblique. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il a écrit un très, très beau livre dont on ne parle jamais, sur Luther. C'est un des plus beaux livres qu'on a écrit sur Luther. C'est le livre de Chestov. Et il parle de ce dieu vivant qui saisit l'homme par la toute-puissance de sa grâce et qui peut, je dirais presque même, effacer ce qui a existé dans la vie d'un homme. Il pousse très loin. Il a cette idée que Dieu peut même gommer l'histoire comme il le veut. Dieu est le maître du temps. Dieu est le maître de l'histoire. Dieu est le maître de nos destinées. Mais nous ne le ressentons que lorsque les évidences de la raison se brisent. Et ces évidences de la raison sont souvent liées au passage de l'homme par les confins de la mort. Et là, il raconte une très belle histoire qui inspire un de ses livres. Il dit « Quand un homme va mourir, l'ange de la mort descend pour prendre son âme. Et l'ange de la mort a des ailes couvertes d'yeux. Et il arrive que Dieu dise à cet ange « Non, laisse cet homme, ce n'est pas encore le moment. » Et l'ange s'en va. Mais en s'en allant, il détache de ses ailes des yeux qu'il donne à cet homme. Et désormais, l'homme ne voit plus avec son regard ancien, mais il voit avec des yeux qui viennent des ailes de l'ange de la mort. Et là, voilà, ça c'est Chestov, n'est-ce pas ? Cette vision cataclysmique, ce brisement des évidences de la raison et de la morale par l'expérience de la mort, et cette ouverture irrationnelle, ou plutôt suprarationnelle à la foi. De même, quand il parle de la morale, de l'éthique, il dit qu'il ne s'agit pas du tout d'une loi. Il s'agit de retrouver cette espèce d'élan de la vie dans la foi. Voilà comment il conçoit les choses. Je pense qu'il y a là une œuvre extrêmement puissante, intéressante, assez répétitive. Oui, sans doute, marquée par Nietzsche, marquée aussi par Dostoïevski. Pas par Kierkegaard. Il a écrit sur Kierkegaard, mais c'est plutôt une convergence. Il l'a rencontré beaucoup plus tard. Mais surtout par ces grands penseurs de la fin de la philosophie.
Il a différencié l'homme de la conscience commune, l'homme banal, l'homme qui vit dans ses franges.
Marie-Madeleine Davy.
L'homme dont la conscience s'approfondit, c'est-à-dire de l'homme qui subit une évolution intérieure. Et en cela, à l'égard de cette évolution intérieure, il était très proche de Berdiaev. Mais ils sont différenciés, d'une certaine manière, car la souffrance de Chestov n'était pas la même que celle de Berdiaev. La souffrance de Chestov, c'était de comprendre que la vérité n'est pas aimée, que l'éternel n'est pas aimé, que la profondeur n'est pas aimée. La souffrance particulière de Berdiaev, c'était que un simple moujik n'est pas de voix. C'était que la civilisation bourgeoise soit souvent, en quelque sorte, ce qui gagne. Que la civilisation bourgeoise soit, en quelque sorte, ce qui est vainqueur durant l'existence. Il y avait, non pas une gnose, si je stoppe, non pas une différenciation entre d'un côté ceux qui sont capables de savoir, d'avoir une connaissance, et les autres. Non, c'était autre chose. C'était de distinguer, chez la plupart des hommes, une impossibilité totale, complète, pour vivre dans leur fond. Et quand je lis Chestov, je me pose la question. Est-ce que le fond de l'âme, est-ce que la dimension de profondeur existe en tout homme? Et j'ajouterai une question qui peut sembler subsidiaire, mais qui est importante, et que je ne cesse pas de me poser aujourd'hui comme hier. Est-ce que tous les hommes sont des hommes? Comment accepter? Comment comprendre? Comment saisir? Alors que la mort physique est au bout de notre route. Comment saisir que tant d'êtres vivent uniquement dans le superficiel, dans le vêtir, dans la nourriture, dans la mondanité. Et Chestov, c'était un homme qu'on peut considérer comme un amant des mystères.
Là où Berdiaev dit il faut une critique de la révélation, parce que Dieu ne peut pas être inhumain, Dieu est pleinement humain. Chestov dit il ne faut pas une critique de la révélation, il faut une critique de la rationalité. Il faut que Dieu fasse voler en éclat toutes ces évidences qui nous paralysent.
Est-ce que d'une certaine façon, on ne pourrait pas dire qu'il y a un certain, je vais m'expliquer sur le mot tout de suite, bien entendu, qu'il y a un certain nihilisme de Chestov, je veux dire dans ce sens où, d'une part, il y a effectivement une sorte d'expérience du monde qui est très, très, très amère, aux confins de la mort, mais surtout, et dans un sens beaucoup plus profond, évidemment, en parlant de Dieu, comme qu'on pourrait considérer comme une sorte de néant, et pour reprendre les termes de la grande mystique, si l'on peut dire, de néant suressentiel.
C'est à la fois le néant suressentiel et en même temps celui qui intervient, celui qui se révèle. C'est un néant suressentiel, mais qui se révèle. Et alors là, en parlant ainsi, vous êtes entré dans la controverse qui fut sans fin entre Berdiaev et Chestov. Chestov a éveillé Berdiaev et lui a permis de sortir de l'illusion marxiste. Mais ensuite, ils ont passé leur vie à s'adorer et à se disputer. Justement, sur ce problème de la connaissance, sur ce problème du nihilisme, Berdiaev, au fond, reprochait à Chestov un certain nihilisme et Chestov reprochait à Berdiaev un certain spinozisme pour écrire gros. Il écrivait gros, Chestov, n'est-ce pas, souvent. C'est assez amusant. Je pense que l'œuvre de Chestov, comme dit très bien le père Vazinkovski dans son histoire de la philosophie russe, est une sorte de très bonne pédagogie pour ouvrir l'homme au mystère. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Mais il nous aide justement à nous débarrasser. Et alors, en cela, je dirais qu'il est plus proche de la philosophie occidentale. C'est plutôt une quête. Sa pensée est une quête. Il écarte les obstacles, il écarte les fausses évidences. Et il ouvre l'homme à ce Dieu absurde, à ce Dieu qui est un néant suressentiel, mais un néant suressentiel qui intervient. Alors, est-il pleinement chrétien? Je dirais qu'il est judéo-chrétien. Il est judéo-chrétien. Il fait beaucoup d'allusions à la spiritualité chrétienne, à la mystique chrétienne, mais on n'a pas le sentiment que le Christ joue un rôle aussi central dans sa pensée que dans la pensée des autres philosophes religieux russes. C'est un grand philosophe judéo-chrétien.
Est-ce qu'on ne peut pas considérer d'une certaine façon, et à la lumière de ce que vous venez de dire justement, que d'une certaine façon, Chestov ne serait pas véritablement ce qu'on pourrait appeler une philosophie religieuse, mais beaucoup plus... Évidemment, je le dis un peu sur le ton de la plaisanterie, mais de la plaisanterie sérieuse, mais beaucoup plus pourrait servir à ce que j'appellerais un exercice de santé spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a aussi une pensée religieuse grandiose, extraordinairement belle, dont on risque de devenir prisonnier, c'est-à-dire de la vivre sur le mode illusoire. Et là, Chestov peut nous aider quand même là, à ne pas céder à l'illusion et éventuellement à se réouvrir derrière. À une véritable beauté.
Oui, je crois que vous avez très très bien défini le rôle de Chestov, c'est tout à fait cela. Chestov, on pourrait le définir aussi comme un philosophe au marteau. Il brise les grands systèmes, fussent-ils des systèmes théologiques, des systèmes de philosophie religieuse, il brise tout cela pour mettre l'homme à nu dans sa détresse, dans son manque, dans son élan aussi, et pour l'ouvrir à la révélation. Je crois que c'est vraiment le rôle de Chestov. Chestov est absolument indispensable face à toutes les rationalités qui deviennent rationalisme.
Par ailleurs, il vit quand même dans une certaine époque, une époque singulièrement troublée, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelle est sa position vis-à-vis de l'histoire? Parce qu'elle était quand même là, et brûlante, oppressante.
Je crois que pour lui, l'histoire était une sorte de théologie négative, ou d'anthropologie négative. L'histoire détruisait des illusions. Il se rendait compte que, à travers l'histoire, l'homme tente l'idolâtrie et, en même temps, l'histoire détruit les idoles. L'homme sans cesse crée des idoles dans l'histoire et l'histoire détruit ces idoles. Je pense que c'est comme ça qu'il concevait le rôle de l'histoire. Et il sentait très bien à quel point ce qui s'était passé en Russie était une réalité monstrueusement idolâtrique. En cela, il est très profondément juif. Le juif est un idoloclaste. Et il y a chez Chestov un idoloclaste, certainement. Une destruction de toutes ces idoles que l'histoire fait surgir. Et Dieu sait qu'il a vécu à une époque où il y avait les idoles de tous les côtés. Il est mort en 1938. Il a vécu la révolution russe et il a vécu l'avènement du nazisme.
Berdiaev était beaucoup plus un prophète que ne l'était Chestov.
Marie-Madeleine Davy.
Mais Chestov n'avait pas la même espérance. Il n'avait pas la même confiance dans l'homme à venir, dans l'homme qui n'est pas encore, mais qui pourra surgir. Mais Chestov avait quelque chose de particulier, c'est qu'il vivait perpétuellement dans son abîme, c'est-à-dire dans son fond. Et quand on le lit, on est subjugué. À certains moments, l'eau monte dans son puits. Et on pourrait se poser la question à l'égard de l'un et l'autre. Pourquoi est-ce qu'ils ont tant écrit? Pourquoi tant publié? Pourquoi ce besoin de publier? Et pour avoir une réponse à l'égard de Chestov et de Berdiaev, je proposerai une réponse venant de Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux du XIIe siècle. Bernard dit, pourquoi est-ce que j'écris? Il dit quand la citerne est pleine, elle a besoin de se vider pour faire un creux, pour pouvoir recevoir encore. Eh bien, j'ai l'impression que pour Berdiaev et pour Chestov, c'était cela. Ils n'écrivaient pas en pensant qu'ils allaient apporter un enseignement nouveau. Ils n'écrivaient pas en disant « je vais apprendre aux hommes ce qu'ils ne savent pas ». Ils étaient l'un et l'autre modestes. Et j'emploierais même un mot, qui ne passe plus aujourd'hui, ils avaient une profondeur d'humilité. Mais, l'un pensait, Berdiaev, qu'il y aurait l'alliance avec l'esprit, et pour Chestov, c'était l'alliance avec le fond. C'était l'alliance avec ce quelque chose qui est dans l'homme, qui n'a pas de nom.
C'était Léon Chestov ou L'épreuve de l'enfer avec Olivier Clément, le quatrième volet d'une série de cinq intitulée 1870-1950, Le renouveau de la pensée orthodoxe pour les chemins de la connaissance, diffusé la première fois le 18 juin 1992 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
mit mir zu stören, erwarte dein Los, wie sich dir wirft, nicht kiesen kann ich es dir. Doch fort muss ich jetzt, fern mich verziehn, zu viel schon zöget ich hier. Von der abwendigen wend ich mich ab, nicht wissen darf ich, was sie sich wünscht, die Strafe nur. Muss vollstreckt ich sie.
Was hast du irgend, dass ich es dulde?
Festen Schlaf.